21 avril 83, père Philippe Rimond.
Continuons cette étude sur l'objet de la foi pour essayer de mieux comprendre, c'est le but que nous faisons, les relations entre l'intelligence et la foi. Alors, il est bon d'essayer de comprendre. L'intelligence, on voit toujours ce que c'est, hein, dès qu'on fait de la philosophie. Toute la philosophie a pour but de savoir ce que c'est que l'intelligence. D'une certaine manière, vous voyez, découvrir ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence pratique, artistique, l'inspiration, l'intelligence affective, l'intelligence dans la coopération, l'intelligence efficace, l'intelligence spéculative dans le devenir, dans le point de vue de la vie, et puis l'intelligence de la philosophie première, hein, Maxime Thalès, où l'intelligence se découvre elle-même comme étant capable de saisir ce qui est du point de vue de l'être. Et en définitive, comme étant capable de Dieu. Puisque l'intelligence de la philosophie première aboutit à la découverte de l'existence de Dieu. Cette capacité très radicale qui est en nous, qui implique un appétit, même si c'est ce qu'on découvre en dernier lieu, c'est peut-être ce qu'on découvre en premier lieu. Tu ne m'aurais pas découvert si je n'étais pas déjà là, présent. Et c'est vrai. D'une certaine manière, au fond, on ne peut pas le dire, hein. Saint Thomas le dit du côté de l'appétit, mais pas du côté de l'intelligence. Il dit du côté de l'appétit, si on a un désir de bonheur, on a un désir de Dieu. Tandis qu'il ne dit jamais, si je fais un acte d'intelligence, j'atteins Dieu. Ça, c'est les modernistes qui disent ça. Saint Thomas ne le dit pas. Dieu n'est pas précisément saisi dès que je fais un jugement d'existence. Dieu est saisi progressivement, lentement, parce que l'intelligence se développe progressivement. Mais il y a un appétit de l'intelligence vers la vérité, et cet appétit de l'intelligence vers la vérité doit remonter jusqu'à Dieu. Tant que l'intelligence n'a pas découvert Dieu, l'intelligence n'est pas satisfaite. Et quand elle découvre Dieu, elle veut le découvrir toujours plus, hein, forcément. Donc, au plan philosophique, on essaie de comprendre ce que c'est que l'intelligence. Et ici, nous essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que la foi. Pour voir les liens qui existent entre les deux. Ce n'est pas du préfabriqué. Mon intelligence est en attente de la foi. D'une certaine manière, c'est vrai. Et d'une autre manière, ce n'est pas vrai. C'est ça qui est très curieux. Elle est en attente de la foi parce que mon intelligence est faite pour connaître Dieu et que la foi, c'est Dieu qui vient vers moi. Mais d'un autre côté, mon intelligence a sa structure propre indépendamment de la foi. Alors, il est bon d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la foi. Qu'est-ce que c'est que l'habitude de foi? Qu'est-ce que ça représente l'habitude de foi? Qu'est-ce que ça représente la vertu théologale de foi? Et c'est ce que nous essayons de faire avec saint Thomas. Alors comprenez bien la critique que nous faisons tout le temps, n'est-ce pas? Il faut tout le temps avoir cet aspect-là présent. C'est que saint Thomas nous donne le traité de la foi à l'intérieur de sa théologie. N'est-ce pas? Et d'une certaine manière, la foi est au-delà de la théologie. Ça, c'est un très beau petit problème à se poser. La foi est au-delà de la théologie, puisque la théologie présuppose la foi. Et je regarde le traité de la foi à l'intérieur de la théologie. Vous voyez tout de suite, hein, l'aspect vital de la foi est au-delà de la théologie. Et l'aspect précision de la foi est à l'intérieur de la théologie. C'est le théologien qui précise ce qu'est la foi, ou commodo non sit. qui précise ce caractère tout à fait particulier de la foi comparativement à mes autres connaissances. Il y a un type de connaissance particulier que j'appelle la foi, qui est un type de connaissance très particulier. Mais ma vie de foi est antérieure. Abraham, il a cru. Et en croyant, ça lui a été imputé comme sa justification. Et la foi d'Abraham n'impliquait pas de la théologie. Il n'impliquait pas de philosophie. La foi est antérieure. La vie de foi est antérieure à toute théologie, à toute foi et à toute philosophie. Elle est plus profonde, elle est plus radicale, elle enveloppe la théologie. Et donc il y aura toujours dans la foi quelque chose que la théologie ne dira pas. Il y aura toujours le mystère de la foi que la théologie ne dira pas. Et la foi restera toujours un mystère, que d'une certaine manière, une âme mystique saisira mieux que le théologien. Une âme mystique, dans sa contemplation, saisira mieux, saisira avec une plus grande profondeur. Et le théologien le sait bien. Le théologien dit ce qu'il peut exprimer de la foi en se servant de sa philosophie. En se servant d'une philosophie réaliste. Alors c'est ça qu'on essaiera de comprendre au terme, parce que ce sera intéressant à voir, surtout après qu'on aura fait l'exposé sur Hegel, n'est-ce pas ? Parce que ce sera intéressant à faire cet exposé sur Hegel, j'espère. Je crois que là, beaucoup peuvent venir, hein, parce que je crois que c'est intéressant de saisir quand on fera le séminaire sur Hegel, parce que je crois que c'est important pour tous ceux qui veulent faire un peu de théologie de comprendre la position hegelienne. Hein. Comprendre qu'est-ce que c'est que cette position. Alors, est-ce qu'on peut lier une connaissance type dialectique avec la foi? Pour moi, c'est le gros problème d'aujourd'hui. Ça, il faut pouvoir se le résoudre. Est-ce que je peux lier la foi et la dialectique hegelienne? Alors, le père Dubarl disait à Fribourg, on l'avait invité pour des recherches sur la connaissance hegelienne, puisqu'après Aristote, il s'est plongé dans Hegel. Et alors, il a dit, surtout, ne faites pas de théologie à partir d'Hegel, vous perdrez la foi. C'est terrible de dire ça. On pourrait dire, mais non, si on a la foi, on verra qu'Hegel est dans l'erreur. Alors vous perdez Hegel. J'aime mieux dire ça. Si je veux voir le lien entre Hegel et la foi, pratiquement je perds Hegel. Je dis non, Hegel c'est autre chose. C'est quelque chose d'à côté. Mais c'est dans la lumière de la foi que je dis c'est impossible. Parce que si, il ne peut pas y avoir d'opposition entre une recherche vraiment philosophique et la foi. Si je vois une opposition, ma connaissance de foi est plus forte que ma connaissance intellectuelle. Entre les deux, je n'hésite pas. On est croyant avant tout. Et plus profondément, la certitude de foi, comme on va le voir, est plus grande que la certitude intellectuelle. Ah, c'est moins évident, c'est sûr. Mais il y a une certitude. Mon intelligence est saisie par la foi dans une profondeur unique. Donc, si je vois que la dialectique hegelienne ne peut pas me servir, et non seulement ne peut pas me servir, mais risque de m'écarter, j'écarte Hegel. Je dis, ah non, danger, produit vénéneux. N'est-ce pas ? Pour le croyant. Mais je comprends aussi très bien comment le père Dubarl pouvait dire, attention, si vous faites une théologie hegelienne, vous perdrez la foi. Parce que c'est vrai, c'est ce qui arrive très souvent. C'est que les théologiens qui se servent de Hegel sont tellement épris de Hegel qu'au bout d'un certain temps, ils ne voient plus que la philosophie hegelienne. Et alors la philosophie hegelienne les met dans une situation limite. Et au fond, ce serait intéressant de voir comment la philosophie hegelienne met le croyant dans une situation limite. Qui fait qu'au bout d'un certain temps, le croyant ne peut plus rien dire. Tellement la dialectique hegelienne est puissante. Alors c'est ça qu'on doit essayer de comprendre, vous voyez. Parce que c'est quand même les rapports de l'intelligence et de la foi que nous essayons de voir. Hein. Alors, j'essaie de les voir dans la lumière de saint Thomas, parce que je crois que c'est là où nous avons la plus grande intelligence de la foi et de l'intelligence. On peut, sur certains points, dire que sa bonne aventure a été plus loin que saint Thomas, que les modernes vont plus loin que saint Thomas, sur certains points. Mais il y a un point sur lequel c'est difficile de dépasser saint Thomas. C'est l'intelligence qu'il a de l'intelligence et l'intelligence qu'il a de la foi. Donc ce problème des rapports entre l'intelligence et la foi, je crois qu'on doit les voir dans saint Thomas. Parce qu'il y a chez lui, si vous voulez, une lucidité très très remarquable du côté de l'intelligence et du côté de la foi. Je crois qu'il n'y a personne d'autre qui a dit les choses d'une façon aussi nette et aussi précise. Alors, on doit essayer de le comprendre. Alors, je reprends pour que vous voyez bien progressivement ce que nous faisons. Nous avons essayé de saisir l'objet de la foi comme la vérité première révélante. La ratio formalis objecti. Retenez au moins le mot, même si vous ne le comprenez pas. La raison formelle de l'objet de la foi, c'est la vérité première se révélant. C'est ça qui illumine, comme la lumière par rapport à ma vision. C'est la vérité première se révélant. Deuxièmement, est-ce que l'objet de la foi est-il quelque chose de complexe ou d'incomplexe ? C'est-à-dire une réalité ou un énoncé ? Bien, l'objet de la foi est à la fois une réalité et un énoncé. C'est-à-dire, l'objet de la foi est une réalité, j'atteins Dieu, mais je l'atteins à travers un énoncé. Pourquoi ? Parce que la foi ne détruit pas ma manière de connaître. Or, de fait, quand j'atteins la vérité, je l'atteins à travers une proposition. Je ne peux pas faire l'économie du langage si je suis intelligent. Je ne peux pas dire, moi, je n'ai pas besoin de langage, je suis suffisamment intelligent, pas besoin de langage. Alors, évidemment, pour les examens, c'est particulier quand on dit ça. J'ai compris, mais dites un peu. Ah, j'ai compris, je vous dis que j'ai compris, moi. Je suis suffisamment intelligent, je n'ai pas besoin du langage. Je n'ai pas besoin, je comprends, j'ai l'intuition parfaite. Ah oui, attention. Hein. Si vous avez bien compris, vous devez pouvoir l'énoncer clairement. La logique est au service de la connaissance philosophique, alors on essaie de le préciser. C'est vrai qu'il peut y avoir des choses que nous connaissons et que nous avons beaucoup de peine d'exprimer. Ça arrive. Nous mettons du temps avant que ça passe à travers l'énonciation. C'est sûr, il y a un décalage entre les deux. Mais quand vous écoutez un cours de métaphysique, vous comprenez. Puis on vous demanderait après le cours, l'examen, pas grand-chose. C'est pas parce que vous ne dites rien que vous n'avez pas compris. Ce serait très faux de dire ça. On peut comprendre et ne pas savoir exprimer après. Ce qu'on éprouve très souvent, moi, du moins personnellement, je l'éprouve très souvent. Quand j'écoute des savants qui expliquent tel ou tel problème, quand ils l'expliquent, on le comprend. Et on est incapable après de pouvoir leur dire. Incapable. On dira, ah là oui, c'est bien ça la question. On dira, ah oui. Alors ça a un peu de rhétorique quand on tourne autour, n'est-ce pas ? Mais on en sera incapable de donner le raisonnement propre, bien qu'on l'ait saisi. Vous voyez, il y a deux choses différentes qu'il faut bien comprendre. Et au fond, c'est ça l'article 2. C'est que l'objet formel de la foi, la raison formelle de l'objet de la foi, c'est la vérité première se révélant. Mais elle se révèle à travers des énoncés. Des énoncés de foi. Il y a des propositions de foi. Il y a la parole de Dieu. Dieu a fait ça lui-même en premier lieu. Hein. Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? Ben, il a dit à Abraham ce qui nous est montré dans l'Écriture. Sors de ton pays. Sors de ta parenté. Va. Donc Dieu a pris le langage d'Abraham. Il l'a pris peut-être objectivement pour qu'Abraham ait entendu, il l'a peut-être pris uniquement intérieurement, ça importe peu. Mais Dieu a pris ce langage. Et en prenant ce langage, Dieu n'a pas diminué la foi. Il ne faut pas croire que la foi est plus lumineuse si on diminue le langage. Non, pas du tout. La foi implique les propositions de foi. Ça implique les propositions de foi. La foi implique la parole de Dieu. C'est pour ça que la grande Thérèse dit que on ne peut pas, dans la foi, quitter l'humanité sainte du Christ. Si on quitte l'humanité sainte du Christ, il y a quelque chose qui ne va plus. Sous prétexte d'être plus spirituel. Oui, on tomberait à ce moment-là dans quelque chose qui ne serait plus vrai. C'est pour ça que cet article 2 est si important. Ensuite, saint Thomas pose la question, peut-il y avoir du faux dans la foi? Ce que nous avons vu la dernière fois. Ça, c'est très réel, hein, cet article-là. La ratio formaliste de la foi étant la vérité première se révélant, il ne peut rien y avoir de faux dans la foi. Mais il peut y avoir, chez le croyant, des erreurs. En tant qu'il est un homme. Pas en tant qu'il est croyant, en tant qu'il est un homme. Parce que tant que je suis sur la terre, ma foi ne prend pas tout le sauvageon. Or, la foi est la greffe sur le sauvageon. Et le sauvageon-là, c'est mon intelligence humaine. Si sélecte et si noble qu'elle soit, elle est sauvageon par rapport à la foi. Et comme ma foi ne saisit pas toute mon intelligence humaine, il peut toujours y avoir des excroissances, surtout en serre chaude. Alors il y a des excroissances. Et je crois que la foi c'est ça. Non, c'est vous, c'est votre opinion, c'est pas la foi. Vous émettez ça, mais ce n'est pas la foi. Vous verrez, ce n'est pas la foi. C'est une espèce d'imagination. Oui, les excroissances. Les excroissances me mettent dans des orientations qui ne sont pas la foi. Et donc, ça peut être des erreurs. Les erreurs proviennent du croyant, c'est-à-dire de l'homme croyant, au sens tout à fait propre. Il faut dire de l'homme croyant, de l'intelligence du croyant qui n'est pas totalement saisi par la foi. Donc, tant que je suis sur la terre, évidemment, je peux dire des bêtises. Je peux dire des bêtises. Si je suis vraiment profondément croyant, j'aurai le radar intérieur qui me fera dire, là, je m'aventure dans un domaine où je ne suis pas certain du tout. Je dis ça, c'est peut-être ça, mais ce n'est pas tout à fait juste. Je sens que ce n'est pas tout à fait... Vous voyez, il y a une espèce de sens très curieux que donne la foi. On sait. Parce que la foi nous donne justement ce désir de vérité. Et l'intelligence perfectionnée par la foi me donne aussi le désir de vérité. Alors je sais, je peux m'aventurer. Et je dois m'aventurer de temps en temps. Fides querens intellectum. Querens, on le verra ça. Le croyant cherche. La foi, c'est pas du donné absolu et puis qui ne bouge pas. Ça, c'est la lettre qui tue. La foi est une recherche incessante. Et je sais que je suis dans une recherche incessante. Alors, elle implique une adhésion, mais elle implique une recherche incessante. Alors, c'est là où je peux très bien, de temps en temps, errer. Mais je sentirai au plus intime de moi-même qu'il y a quelque chose qui fait que je m'avance dans un domaine que je ne connais pas assez. Pourquoi ? Parce que le croyant, il se laisse enseigner par l'Église. Je sais très bien, vous avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin d'être enseigné. C'est dit dans saint Jean. Alors, vous voyez, l'école de saint Jean, il faudrait mettre ça en dessous, n'est-ce pas ? Il faudrait mettre en dessous, vous avez reçu l'onction, il n'y a pas besoin d'être enseigné. Donc c'est une école merveilleuse, pas besoin d'être enseigné. C'est le Saint-Esprit qui directement vient. C'est très vrai, ça c'est très vrai, il faut affirmer toujours les deux. Mais comme toujours, dans l'Écriture, il y a les deux. Le Père doit nous enseigner. Vous avez reçu l'enseignement du Père. Et nous devons être enseignés par le Père. Et à travers le Père, tous ceux qui sont mandatés pour enseigner. Pour enseigner la théologie, il faut un mandat d'Église. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut un mandat d'Église pour enseigner la théologie. Pas la philosophie. La philosophie, peut dire beaucoup de bêtises, vous voyez, c'est permis, mais pas en théologie. Il faut un mandat d'Église. Et chaque fois qu'on dit quelque chose qui est contraire à l'enseignement de l'Église, on doit le dire. Dire là, je dis quelque chose de mon propre gré, ce n'est pas l'enseignement de l'Église. En réalité, quand on dit ça, ça prouve qu'on est dans l'erreur. Hein. Mais évidemment, on peut avoir un instinct prophétique et dire l'Église n'est pas encore arrivée à mon degré d'intelligence de la foi. Je suis la fine pointe du progrès de l'Église. Mais non, c'est bien, c'est tous les prophètes, ils ont dit des choses comme ça. Les faux prophètes, hein, parce que les vrais ne disent pas ça. Mais les faux prophètes disent, je pose un acte prophétique, dans 10 ans l'Église comprendra. Dans 10 ans l'Église comprendra, dans 10 ans l'Église dira autre chose. Il y a beaucoup de chance. Parce qu'ordinairement, quand on pose un acte prophétique de cette manière-là, on veut être docile à l'Église. Mais on peut dire des choses qui explicitent des choses qui ne sont pas encore dites, mais qui ne sont pas en contradiction. Parce qu'il y a une homogénéité du progrès de la foi. Et l'homogénéité du progrès de la foi fait que c'est dans la ligne. Alors, nous allons voir maintenant, l'objet de la foi peut-il être une chose vue? L'apôtre dit aux Hébreux que la foi est la persuasion de ce qui ne se voit pas. Alors, ça, nous reviendrons constamment là-dessus. C'est très difficile à bien comprendre. Ce fides est argumentum non apparentium. C'est la définition des Hébreux. C'est intéressant parce que là, il y a le texte, le texte même de la Révélation, l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, on dirait plus l'apôtre. On dirait l'Épître aux Hébreux tout court, pour tranquilliser les gens, n'est-ce pas ? Mais saint Thomas, lui, reste encore avec cette persuasion, ça n'a pas d'importance, que c'est de saint Paul, l'Épître aux Hébreux. L'apôtre dit aux Épîtres aux Hébreux, la foi est la persuasion, argumentum, non apparentium. Au terme, nous reviendrons là-dessus. La foi implique une adhésion de l'intelligence à ce que l'on croit. Donc, importat assensum. Intellectus adit quod creditur. Donc il y a un assensus. L'assensus, vous avez très bien dans saint Thomas, l'assensus, pour ceux qui ont étudié la première opération et la seconde opération de saint Thomas, ils savent que l'assensus, c'est du côté du jugement. N'est-ce pas ? L'appréhension au sens rigoureux n'implique pas d'assensus. Tandis que l'assensus, c'est un terme consacré chez saint Thomas, l'assensus. Eh bien, ça, c'est l'adhésion du jugement. Il n'y a pas d'adhésion sans jugement. Et c'est dans le jugement que se fait la sensus. On adhère, on juge, on discerne. Mais l'intellect adhère à quelque chose de deux façons. D'une manière, elle adhère parce qu'elle y est portée par la force même de l'objet. Donc il faut bien voir le texte. Assentit autem aliqui intellectus dupliciter. Donc, il y a un double assensus. Donc, un double assentiment. Uno modo quia ad hoc movetur ad ipso objecto. C'est l'objet lui-même qui me permet d'adhérer. Ce qui se fait, ou parce qu'il est connu par lui-même, c'est comme les premiers principes desquels on a l'intelligence. Quand vous avez saisi ce que c'est que l'ousia, vous y avez adhéré spontanément, parce que c'était tellement lumineux que vous y avez adhéré. Alors, perse ipsum, cognitum perse ipsum. Les principes sont connus par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'une autre chose. Ils ont une évidence, une force d'évidence qui se fait par eux-mêmes. Ou bien, c'est par un autre qu'il est connu, comme pour les conclusions. Donc, et la science. Quand vous dites que l'un est acolyte de l'être, quand vous dites que l'un est la propriété de l'être, vous le dites toujours grâce à un principe. Quand vous dites que la capacité de rire est le propre de l'homme, vous le dites toujours grâce à un principe. Ce n'est pas immédiatement évident. Je comprends, parce qu'il y a des hommes tellement sérieux, on se demande, et pourtant ils sont intelligents. Alors, ce n'est pas immédiatement évident, vous voyez. Alors, parce que ce n'est pas immédiatement évident que vous êtes obligé de vous servir d'un principe. Il y a l'intermédiaire d'autre chose. Donc, saint Thomas montre que l'évidence qui vient de l'objet, qui permet de donner la sensus, l'assentiment, se fait de deux manières, ou directement, immédiatement, ou bien par l'intermédiaire d'autre chose. Alio modo, intellectus assensis aliqui, non quia sufficienter movetur ab objecto proprio, sed per quamdam electionem voluntarie declinans in unam partem magis quam in aliam. Alors, je vous traduis hein, pour que vous compreniez mieux. Je peux lire, si vous voulez, la traduction. De l'autre manière, l'intelligence adhère à quelque chose sans y être pleinement portée par son objet, mais en s'attachant volontairement par un choix à une partie plutôt qu'à une autre. Donc par une certaine élection, une élection volontaire qui l'incline dans une partie plutôt que dans une autre. Je vois très bien que ce n'est pas évident. Mais puisque tu me le dis, j'y crois. Vous voyez l'influence d'un autre. Je ne vois pas, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas très bien. Mais puisque tu me le dis, j'y crois. C'est-à-dire j'y adhère. Alors j'y adhère grâce à un choix volontaire, libre. C'est l'intervention de la volonté. C'est l'intervention de la volonté par rapport à l'intelligence. On reprendra ça. C'est très intéressant, cet article, à cause des rapports entre l'intelligence et la volonté. Donc, mais en s'attachant volontairement par un choix à une partie plutôt qu'à une autre. Et si l'on prend ce parti avec un reste d'hésitation et de crainte en faveur de l'autre, on aura une opinion. Mais si l'on prend parti avec certitude et sans aucun reste de crainte, on aura la foi. Vous voyez la différence entre fidèles et opinion. Ça, c'est Saint Thomas qui précise. Hein. Or, lorsqu'on dit qu'on voit les choses, c'est qu'elle force notre intelligence ou nos sens à prendre connaissance d'elle. D'où il est manifeste que ni la foi, ni l'opinion ne peuvent avoir pour objet des choses qui seraient vues, soit par les sens, soit par l'esprit. Alors, je fais ce petit tableau. C'est un très bel article où on voit l'intelligence. Alors, l'assensus, l'adhésion d'intelligence. L'adhésion d'intelligence. L'intelligence, dans son jugement, adhère. Elle adhère à cause de l'objet. De l'objet qui est vu. De l'objet qui est évident. Il est vu. Alors, l'objet est évident ou immédiatement. Alors, c'est l'objet qui, par lui-même, saisit mon intelligence. C'est l'objet par lui-même qui saisit mon intelligence et qui fait que mon intelligence adhère. Bon, ça, c'est la saisie des principes propres. Vous en avez la grande expérience, hein? La saisie des principes propres. Vous avez saisi l'ousillant. Alors, vous l'avez saisi immédiatement. C'est extraordinaire, ça. Quand on saisit un principe, on est saisi par lui. On est déterminé par lui. C'est l'évidence. Ou par l'intermédiaté. Immédiaté ou médiaté. Médiaté, c'est par l'intermédiaire d'un autre. Alors, c'est la conclusion. Toute conclusion scientifique a une évidence médiate et n'a pas d'évidence immédiate. Ceci, c'est le jugement. On y adhère à cause de l'objet. L'objet, quelquefois, ne suffit pas. Parce que je ne vois pas. Il y a du brouillard. Le brouillard dans les formes intelligibles. Le brouillard matinal dans les formes intelligibles. Alors, il y a du brouillard, je ne vois pas très bien. Ah, vous avez dit oui, vous avez parlé de l'ousia et de l'art, c'est possible que ce soit des principes propres, mais je ne vois pas encore très bien. C'est normal, hein? Je ne vois pas encore très bien, il y a du brouillard. Mais puisque vous le dites, j'y crois. Hein? Vous voyez bien. Alors, à ce moment-là, c'est l'intelligence qui, sous la mouvance de la volonté, et le choix qui va incliner l'intelligence. C'est la volonté qui va incliner l'intelligence. Je m'appuie sur le témoignage d'un autre. Le parrainage, vous voyez bien, le parrainage c'est fait pour ça. Je m'appuie sur le témoignage d'un autre, un autre qui a un tout petit peu plus de connaissances que moi. Alors, parce qu'il a un tout petit peu plus de connaissances que moi, je m'appuie sur lui. Je m'appuie sur son témoignage, son choix. Alors à ce moment-là, j'adhère. Mon adhésion ne se fait plus par l'objet, vous voyez, se fait par le sujet. C'est très curieux. Ce n'est plus l'attraction de l'objet, c'est la volonté qui me pousse. Mon intelligence est poussée à adhérer sur le témoignage d'un autre. Je ne vois pas très bien, moi, c'est pas étonnant. Je suis myope. Je ne vois pas très bien. Mais puisque je suis myope intellectuellement, vous voyez, je suis myope intellectuellement, c'est-à-dire que je n'ai pas encore l'habitus. L'habitus n'est pas encore venu pour enlever tous les brouillards et mettre l'intelligence directement. Je m'appuie sur lui. Je m'appuie sur son témoignage, son choix. Alors à ce moment-là, j'adhère. Mon adhésion ne se fait plus par l'objet, vous voyez, se fait par le sujet. C'est très curieux. Ce n'est plus l'attraction de l'objet, c'est la volonté qui me pousse. Mon intelligence est poussée à adhérer sur le témoignage d'un autre. Je ne vois pas très bien, moi, c'est pas étonnant. Je suis myope. Je ne vois pas très bien. Mais puisque je suis myope intellectuellement, vous voyez, je suis myope intellectuellement, c'est-à-dire que je n'ai pas encore l'habitus. L'habitus n'est pas encore venu pour enlever tous les brouillards et mettre l'intelligence directement en relation avec l'objet. Il y a des imaginations, il y a des fièvres paludiennes, n'est-ce pas, alors, qui font que je ne vois pas encore très très bien, il y a pas mal d'imagination. Alors, à ce moment-là, l'intelligence adhère grâce à la volonté, pour ne pas perdre de temps. Parce qu'autrement, je resterais hypoqué, en suspens. Ah, je peux pas. Oui, l'âme de Buridan. Je peux pas, je vois pas. Faut-il aller du côté, Faut-il aller du côté de Platon? Faut-il aller du côté d'Aristote? Faut-il aller du côté du néoplatonisme? Je sais pas, j'hésite. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors, ils hésitent indéfiniment. Ils n'arrivent pas à avoir la conviction de l'objet. Alors, ils n'ont pas confiance. C'est pour ça que saint Thomas dit qu'au début de toute connaissance, il y a un acte de foi. On adhère, on se met, c'est le propre de l'école, on adhère, on fait confiance. On fait confiance en disant, il a dû faire ce chemin, et alors j'ai confiance, j'adhère. À cause de la confiance que j'ai en quelqu'un d'autre, à cause de son témoignage. Alors c'est la volonté qui à ce moment-là me fait adhérer. Dans cette adhésion, saint Thomas distingue l'adhésion de l'opinion et l'adhésion de foi. Et quand saint Thomas ici prend foi, il prend la foi au niveau tout à fait commun, pas la foi surnaturelle, la foi que j'ai en mon ami. Ah, tu me dis ça, j'ai confiance, ça marche. Et on dit ça spontanément, on fait un acte de foi à ce moment-là. Vous faites constamment un acte de foi au point de vue humain. Constamment on fait un acte de foi. Et bien saint Thomas distingue l'opinion de la foi. L'opinion c'est quand Le témoignage de l'autre, le témoignage que j'accepte volontairement, j'accepte son autorité intellectuelle. Donc ce témoignage de l'autre n'enlève pas entièrement les hésitations. Oh oui, si tu veux, on va essayer. Je reste dans l'opinion. C'est pas très sûr. Alors c'est le brouillard qui de temps en temps revient très très fort, pas étonnant, on est dans la vallée. Alors ça revient très très fort dans le creux. Montez un peu plus, le brouillard disparaîtra. Alors vous avez un peu plus de volonté à ce moment-là, le point de vue de la... quand il y a des incertitudes qui demeurent. Quand il y a des incertitudes qui demeurent, parce que je louche encore. Hein. Ah, vous êtes bien sûr, pas sûr, on reste entre deux. Vous voyez, alors c'est l'opinion. Et puis quand, de fait, le témoignage de l'autre arrive à convaincre entièrement mon intelligence, je suis en face de la foi. La foi, c'est donc une adhésion de l'intelligence à un objet non vu. Mais c'est une adhésion d'intelligence à un objet non vu, et donc cette adhésion ne se fait pas par l'intelligence, elle se fait par la volonté. La volonté par un choix volontaire. Et elle se fait par un choix volontaire inclinant l'intelligence à adhérer. C'est pour ça que le Concile d'Orange dira que l'initium fidei, c'est la pia affectio. Le point de départ de la foi, c'est cette pia affectio, c'est-à-dire cet amour confiant que j'ai en Dieu qui se révèle à moi. Ça fait comprendre comment l'adhésion de foi implique un côté affectif, donc un côté subjectif. Quand on dit « Ah, la foi est subjective », mais oui, pourquoi pas? Ah oui, il y a une subjectivité dans la foi, c'est bien évident. Quand je dirais, mais c'est forcé, autrement je ne croirais jamais. Il faut une bonne volonté pour croire. Si vous essayez uniquement de croire quand c'est l'évident, ce n'est plus la foi. Il y a une part subjective d'amour. C'est pour ça que certains diront, le beau risque de la foi, c'est lui qui fait. Alors, c'est le risque de la foi, c'est vrai, il y a une part subjective dans la foi, parce que la foi est une connaissance qui n'est pas claire, par définition. Ce n'est pas clair, je ne vois pas. Elle porte sur le non-vu. Et ceci, c'est vrai de la foi divine et de la foi humaine. Donc, vous voyez bien, ici, c'est une question que saint Thomas précise. Or, lorsqu'on dit qu'on voit des choses, c'est qu'elle force notre esprit. Là, je vois. Ici, je vois. On est dans une vision. C'est une vision, parce que l'objet se manifeste directement. La vision, c'est quand l'objet se manifeste directement. Alors, à ce moment-là, je suis en face d'une vision. Quand l'objet ne se manifeste pas directement, et qu'on y adhère grâce à l'intelligence, on dit qu'on ne voit pas. Et on continue de marcher. Oui. Le croyant, c'est celui qui marche sans voir. Mais il marche. Parce que celui qui ne marche pas, ce n'est pas le croyant. C'est Abraham. Il va vers la terre promise. Oui. C'est vraiment l'attitude du croyant. Or, lorsqu'on dit qu'on voit des choses, c'est qu'elles forcent notre esprit ou nos sens à prendre connaissance d'elles. D'où il est manifeste que ni la foi ni l'opinion ne peuvent avoir pour objet des choses qui soient vues, soit par les sens, soit par l'esprit. Je crois que ça, c'est facile à comprendre. Il suffit simplement de comprendre l'analogie. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors là aussi, c'est très extraordinaire au point de vue théologique, la confiance que fait saint Thomas. L'analogie, c'est la foi humaine. C'est l'analogie. Qu'est-ce que c'est que la foi? Mais regardez dans votre vie. Qu'est-ce que c'est que la foi? Mais regardez vos connaissances. Vous avez quatre types de connaissances. Vous avez quatre types de connaissances. Vous avez une connaissance des principes. Vous avez une connaissance des conclusions. Vous avez une connaissance de l'opinion. Et vous avez une connaissance de foi. Dans toute vie humaine, il y a ça. Réfléchissez sur les actes de foi que vous posez durant la journée. De foi humaine. On en fait tout le temps. Dans un cours, combien d'actes de foi vous faites? Vous en faites tout le temps d'actes de foi. Si vous êtes intelligent, parce que vous dites, bon, je suis à l'école, je suis au début de la métaphysique, je comprends rien du tout, ça ne veut rien, j'avance. Tandis que si vous dites, ah non, 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 ah, j'avance pas, je comprends rien du tout, j'avance pas, et vous n'avancerez jamais. C'est pour ça que saint Thomas dit, il faut d'abord, avant de connaître, il faut croire. Nous avons tous fait ça, l'école maternelle, hein. Souvenez bien. Et l'école maternelle, ça continue tout le temps. Et plus on s'élève, plus il y a l'école maternelle au point de départ. L'école maternelle, c'est quand la foi est au point de départ. Alors à ce moment-là, on croit, on a une bonne volonté. Et s'il n'y a plus cette bonne volonté, on ne progresse pas. C'est très beau de voir ces quatre modalités que donne tout de suite saint Thomas. Hein. C'est très intéressant. Ces quatre modalités. Vous allez voir le jeu avec lequel saint Thomas va essayer de comprendre ces quatre modalités, parce que c'est quand même assez intéressant. Alors, première objection. Le Seigneur semble dire, quand il fait à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » On a donc vision et foi sur le même chose. C'est évident. Parce que tu as cru, parce que tu as vu, tu crois. Pour saint Thomas, c'est saint Thomas qui dit ça. Pour saint Thomas, il vit une chose et il en crut une autre. Il vit un homme, il confessa qu'il croyait à un Dieu lorsqu'il s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il vit un homme qui, parce qu'il disait, répondait à son doute. Donc il a vu quelqu'un qui manifestait une connaissance plus grande que n'importe quel autre homme. Alors, ça lui a donné un signe. Le signe, on le voit. Le signe n'est jamais objet de foi. Le signe permet la foi. C'est très vrai, ça. Donc, parce que tu as vu un signe, tu crois. Parce que tu as vu ce signe, tu crois. Ça arrive, ça, vous voyez. Les gens qui se mettent à croire à partir d'un miracle. Surtout quand le miracle est sur eux. Alors, ça, ils sont un peu plus émus. C'est très vrai, ça. C'est... Quand on a une guérison. C'est évident, ça nous aide à croire. C'est évident, ça nous aide à croire. Ça nous aide beaucoup. Bien quand on a été là, présent, et qu'on voit des choses comme ça, ça nous aide beaucoup à croire. On dit, ah, la toute-puissance de Dieu est là, c'est merveilleux. Quand la foudre tombe à côté de vous, et que vous n'êtes pas foudroyé, n'est-ce pas? Vous dites, protection de Dieu. Le signe qui nous permet de comprendre la miséricorde de Dieu. Alors, quand la foudre ne tombe pas sur vos pieds, vous ne voyez pas. Alors que la miséricorde de Dieu est toujours la même. Mais c'est vrai que quand on est tout proche d'un événement comme ça qui nous secoue, ben ouais, c'est évident, on est secoué. Le signe est objet de connaissance. On le voit. Deuxième objection. L'apôtre aussi dit, nous voyons maintenant par un miroir en énigme. Donc, nous voyons maintenant par un miroir en énigme. Et il parle de la connaissance de foi. Donc, ce qu'on croit, on le voit. C'est net, ça. Réponse de saint Thomas. Les choses qui tombent sous la foi peuvent être considérées de deux manières. Donc, « Eaque subsum fidei, dupliciter considerari possunt ». Vous voyez que le propre du théologien, c'est toujours de distinguer. Toutes les confusions, c'est des objections. Donc, ce sont des murs qui arrêtent. Et le propre du théologien, c'est d'enlever cette confusion. Elles peuvent l'être en détail. Et à cet égard, elles ne peuvent pas être en même temps vues et crues. Ainsi qu'on vient de le dire. Donc, Udo Mundio, in speciali. En détail, ça traduit très mal, in speciali. C'est en détail et en gros, n'est-ce pas? Tout à fait ça. C'est in speciali, in generali. Alors, vous voyez bien en détail et en gros. C'est le commerce. Tandis qu'au point de vue spéculatif, j'aime mieux in speciali, in generali. Mais c'est difficile à traduire in speciali. C'est-à-dire, je crois, quand on regarde l'objet propre, ce qui spécifie directement, in speciali. Alors à ce moment-là, la même réalité ne peut pas être en même temps vue et crue. Tandis qu'autrement, si vous regardez, autrement, si elles sont considérées en général, tout pot, comme dirait Aristote, pas, on dirait d'une façon générale, d'une manière générale, je crois qu'il faudrait mieux mettre d'une manière générale, d'une manière précise. D'une manière précise, une réalité ne peut pas être en même temps objet de foi et objet de vision. D'une manière générale, donc en gros, c'est-à-dire sous l'aspect commun de la crédibilité, in generali, chelichet sub communi ratione credibilis. sous la raison commune de ce qui est croyable, de la crédibilité. Alors, elles sont vues par celui qui croit. Il ne croirait pas en effet s'il ne voyait pas ces choses, s'il ne voyait pas que ces choses doivent être crues. Et cette vision a pour cause soit l'évidence des signes, soit quelque chose d'équivalent. Donc, si je le prends in generali, c'est-à-dire sous la raison commune de crédible, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui est vu et quelque chose qui est cru. Et le quelque chose qui est vu me conduit à ce qui est cru. Il y a un partage qui se fait. C'est très beau comme réponse, hein, pour répondre à cette question qui n'est pas si commode que ça. Nous voyons maintenant par un miroir en énigme. Donc, il y a quelque chose qu'on voit et quelque chose qu'on croit. On voit le signe et on croit au mystère. Alors, si j'unis le signe et le mystère, alors je suis in generali sub communi ratione credibilis, sous la raison commune de ce qui est croyable. Alors, je distingue les deux. Voyez, vous avez exactement la chose à propos de la vocation de Nathanaël. Je t'ai vu sous le figuier. Et puis, alors, à partir de là, immédiatement, il adhère. Vous comprenez bien, quand il dit « je t'ai vu sous le figuier », il ne va pas adhérer au fait qu'il était sous le figuier. Non, non, il adhère à celui qui lui dit le signe. Donc, le signe comme un tremplin qui permet le saut. Le saut de Kierkegaard. Kierkegaard dit que la foi, c'est un saut périlleux. Il prend toujours l'image du saut périlleux. Il y a quelque chose de juste, on voit très bien. Parce que jusqu'à un moment donné, il y a un tremplin, le signe, et puis on va beaucoup plus loin. Le signe, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de limité, c'est quelque chose que je peux constater. Et puis le mystère. Alors le mystère va beaucoup plus loin. Et c'est vrai, dans le mystère, il y a quelque chose d'absolu. Et dans la foi, il y a quelque chose d'absolu. Et c'est toute ma vie qui est engagée. Tandis que dans le signe, pas du tout. Providentiellement, j'ai pu voir ce signe. Providentiellement, j'ai été là, j'ai constaté. Il y a des signes comme ça que la Providence met sur notre route. Bon, ça fait, in generali, alors ça enveloppe ma vie de foi. Ma vie de foi est constellée de ces petits signes qui m'aident. Mais ce n'est pas là-dessus que je mise ma vie. Mais ramener le mystère au signe, c'est la dévotion qui l'emporte sur les vertus théologales. C'est une attitude affective. Il faut que les signes soient dépassés. Et quand j'adhère, j'ai plus besoin de signes. Mais c'est la canne de l'aveugle, une fois que j'adhère, j'en ai plus besoin. J'en ai besoin de signes, je dois jamais mépriser les signes. Parce que tant que je suis sur la terre, j'en ai besoin. Parce qu'il y a toujours en moi un petit incrédule qui en a besoin de ça. Il a besoin de ces signes. Mais il ne s'arrête pas à ça. S'arrêter à cela, ce serait supprimer le grand élan de ce que représentent les vertus théologales. Troisième objection. La lumière de foi fait voir ce qu'on croit. Il faut le dire. Pardon, attendez. Troisième objection. D'ailleurs, la foi est une lumière spirituelle. Alors ça, c'est très important. Vous allez voir le second analogué. La foi est une lumière spirituelle. Mais dans une lumière, on voit quelque chose. La foi a donc pour objet des choses vues. Puisque la foi est lumière. C'est vrai, on le dit, ça, on dit que la foi est lumière. Saint Thomas répond, la lumière de foi, lumen fidei. Ah, la fameuse lumen fidei. La lumière de foi. La lumière de foi fait voir ce qu'on croit. Il faut le dire. De même que par les autres habitudes des vertus, l'homme voit en effet ce qui lui convient selon tel habitus. De même, par l'habitus de foi, l'esprit de l'homme est incliné aussi à donner son adhésion à ce qui est conforme à la vraie foi et pas autre chose. Donc c'est l'habitus de foi qui détermine l'adhésion. Alors ça, c'est très beau. Hein. C'est la seconde analogie pour saint Thomas, toujours. Parce que c'est vrai, on parle de lumière de foi. Alors, on parle de lumière de foi, pourquoi? Comme on parle de la lumière de l'intelligence. La lumière de l'intelligence, c'est l'adhésion au premier principe. La foi me fait adhérer à un mystère. Et parce que la foi me fait adhérer à un mystère, elle détermine fondamentalement mon intelligence. Comme mon intelligence est déterminée par les principes propres. Oui. Alors il prendra les deux analogies, l'analogie de la foi et l'analogie des premiers principes. Et ça c'est très curieux hein, pour ceux qui s'intéressent à l'évolution de la pensée de saint Thomas. Dans les sentences, saint Thomas prend comme première analogie l'habitus des principes et comme seconde analogie la foi humaine. Et ici, dans la somme, on prend comme première analoguée la foi et comme seconde analoguée le lumen fidei. Autrement dit, il y a dans la part de saint Thomas, des sentences à la somme, il y a une inversion des deux analogies qu'il prend. Je vous ai dit, il y a toujours deux analogies, on se sert toujours de deux analogies pour éclairer le mystère. Ici, il y a deux analogies, parce qu'il y a deux types de connaissances extrêmes. Les deux types de connaissances extrêmes, c'est bien la lumière de l'intelligence, l'habitus des premiers principes. L'habitus des premiers principes. Hein. L'habitus qui est ce qu'on appelle l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence faculté, mais c'est l'habitus des premiers principes. Eh bien, c'est l'extrême. C'est ce qu'il y a de plus simple dans ma vie intellectuelle quand j'adhère à des principes propres. Et puis, la foi. Eh bien, on va se servir de ces deux analogies pour essayer d'éclairer le mystère. Il y a un ordre dans les deux analogies, et l'ordre n'est pas le même dans les sentences et dans la somme. Donc, ça veut dire que saint Thomas insiste plus dans la somme sur l'aspect volontaire de la foi que dans les sentences. Et en ce sens-là, on voit très bien qu'il a une vision un peu différente de la foi dans la somme par rapport aux sentences. Je relis. La lumière de la foi fait voir ce qu'on croit. Il faut le dire. De même que par les autres habitus des vertus, l'homme voit en effet ce qui lui convient selon tel habitus. De même par l'habitus de foi, l'esprit de l'homme est incliné aussi à donner son adhésion à ce qui est conforme à la vraie foi. C'est le radar. Hein? C'est l'exemple du radar. La foi nous donne un radar intérieur. Et nous inclinons. Nous sommes portés vers. Mais intérieurement, nous sommes inclinés vers. Alors, je vois vite le dernier. Du reste, n'importe quelle sensation, c'est l'objection, n'importe quelle sensation, au dire de saint Augustin, s'appelle une vue. Or, la foi, pour objet des choses, oui, selon le mot de l'apôtre. Elle vient par l'ouïe. On doit donc avancer qu'elle a pour objet des choses vues. C'est très joli. Le sens de l'ouïe a bien pour objet les paroles qui nous signifie ce qui est de foi, mais non pas les réalités mêmes qui sont matière de foi. Il n'y a donc pas à conclure que ces sortes de réalités sont vues. Vous entendez les paroles et vous croyez au mystère. Fides ex auditu. C'est très vrai. Mais si vous êtes sourd, vous pouvez croire. N'allez pas dire que tous les sourds ne croient plus, n'est-ce pas? Non, c'est sûr, fides ex auditu, mais comprenons bien, ce n'est pas l'auditus sensible, c'est l'auditus intérieur, parce que la foi est une réceptivité comme l'auditus. Et c'est pour ça que saint Jean parle toujours de la foi et la bonne, recevoir, on reçoit, comme quand on est l'attitude de celui qui écoute. Celui qui écoute, il reçoit. Celui qui écoute, c'est celui qui accepte de suivre. Il écoute. Ce qu'on disait toujours à Fribourg, vous êtes des auditeurs et pas des scriptores. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.